Erreur 04.013.032.034. Où allez-vous?
Leur dit le chrétien.
Retournez, répondirent-ils, si vous avez encore quelques soucis de votre vie.
Pourquoi cela? Répondit le chrétien.
Qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe?
Répondirent-ils. Nous sommes allés aussi loin qu'il est possible dans le chemin où vous voulez entrer, mais nous y avons manqué d'y laisser la vie.
Qu'est-ce donc qui vous est arrivé? Demanda le chrétien. Qu'avez-vous vu?
La vallée obscure elle-même, dirent-ils, n'est-ce pas assez?
D'épaisses ténèbres y règnent de toutes parts, on n'y aperçoit que des lutins, des dragons sortis de l'abîme, on y entend sans cesse des gémissements et des hurlements, comme des gens accablés sous de pesantes chaînes. En un mot, c'est un lieu dangereux et horrible.
Je ne puis encore voir autre chose en tout ceci, dit le chrétien, sinon que c'est le chemin par lequel je dois passer pour parvenir au terme de mon voyage.
Si c'est là votre chemin, dirent-ils, nous ne voulons pas vous suivre. En même temps, ils se séparèrent du chrétien, qui continua son chemin, tenant toujours son épée à la main, de peur d'être surpris.
Je vis aussi qu'au côté, droit de la vallée, il y avait tout le long du chemin un profond fossé où sont tombés, de tout temps, les aveugles qui conduisent d'autres aveugles et où ils ont misérablement péri. À la gauche, il y avait un marais tellement rempli de fange et de boue que lorsqu'un voyageur vient à y tomber, son pied ne trouve point de fond. C'est celui où le roi David tomba une fois et où il aurait misérablement péri si le Tout-Puissant ne l'en eût retiré.
Psaume 69. Trois, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu.
Le sentier était aussi extrêmement étroit, et c'est ce qui augmentait le péril, car, comme le chrétien marchait dans l'obscurité, il s'exposait à tomber dans le marais lorsqu'il voulait éviter le fossé, et, au contraire, il s'exposait à tomber dans celui-ci quand il voulait éviter le marais, de sorte qu'il marchait avec beaucoup d'inquiétude et de peine.
Environ au milieu de cette vallée, assez près du chemin, était un dégouffre qui conduisait à l'enfer. Le feu, la fumée et les cris effroyables qui sortaient de cet abîme épouvantèrent tellement le chrétien lorsqu'il y fut arrivé qu'il s'arrêta tout court, disant en lui-même, hélas, que faut-il que je fasse? Et comme son épée lui était alors inutile, il fut contraint de la remettre dans le fourreau et de recourir à d'autres armes, savoir à la prière continuelle.
Psaume 116, 2, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Je l'entendais crier, délivre mon âme, ô Éternel. Et comme il passait outre, le feu l'approcha de si près, il entendit des cris si épouvantables et de tels éclats, qu'il craignit souvent d'être mis en pièces, et foulé comme la boue des rues. Il entendit ces cris affreux, et vit ces objets d'horreur, pendant quelques heures en chemin. Et comme il lui semblait entendre le bruit d'une troupe d'ennemis qui était aux prises, il s'arrêta quelque temps pour délibérer sur ce qu'il aurait à faire. Il lui prenait quelquefois l'envie de rebrousser chemin, mais réfléchissant ensuite qu'il avait bien passé la moitié de la vallée et qu'il avait déjà surmonté tant de dangers, il comprit qu'il y aurait encore plus de péril à rebrousser chemin qu'à poursuivre son voyage. Et il prit la résolution de passer outre. Cependant, il lui semblait quelquefois que les ennemis approchaient toujours davantage et qu'il allait les avoir sur les bras, ce qui fit qu'il s'écria, comme pour s'encourager lui-même, « Je veux avancer en la force du Seigneur des Seigneurs ». Là-dessus, ils prirent tous la fuite et ne parurent plus. Il y a encore une chose que je ne dois pas oublier ici, c'est que ce pauvre chrétien était si étonné qu'il ne reconnaissait plus sa propre voix. Et je m'aperçus que vis-à-vis de l'abîme, un de ces méchants vint par derrière, et s'approchant de lui doucement, lui soufflait fort bas et fort, vide dans les oreilles plusieurs affreux blasphèmes, qu'il croyait sortir de son propre cœur ce qui lui causait plus d'inquiétude que tout ce qui lui était arrivé précédemment, ne pouvant comprendre comment il se faisait qu'il vomit maintenant des blasphèmes, contre celui qu'il avait, jusqu'alors tant aimé. Mais ce qui augmentait sa douleur, c'était de voir qu'il ne pouvait dissiper ses blasphèmes, quelque effort qu'il fît pour cela.
Il marcha pendant quelque temps dans ce triste état et, chemin faisant, il lui sembla ouïr un peu devant lui la voix d'un homme qui disait encore que je chemine dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point, car tu es avec moi. Le chrétien fut ravi de cette rencontre pour bien des raisons. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Premièrement, parce qu'il venait d'entendre des paroles lui rappelaient que Dieu était avec lui, bien qu'il fût dans un état si triste et si accablant. Pourquoi, disait-il en lui-même, cela ne serait-il pas, quoique plusieurs obstacles m'empêchent de la voir ou de la comprendre? Deuxièmement, parce qu'il en tirait cette conclusion, qu'il y avait des personnes dans cette vallée qui craignaient le Seigneur aussi bien que lui. Troisièmement, parce qu'il en conçut l'espérance, qu'en se pressant un peu il pourrait atteindre celui qui marchait devant lui et qu'ainsi il aurait bientôt bonne compagnie. Aussi, ayant pris courage, il doubla le pas. Et quand il se crut assez près de celui qui marchait devant lui, il l'appela à haute voix. Mais il fut bien surpris d'entendre qu'on lui demandait pourquoi il était ainsi seul. Cependant le jour vint aussitôt apparaître, ce qui lui fit dire il change les ténèbres en l'aube du jour. La lumière du jour étant ainsi éclose, il essaya de regarder une fois derrière lui, non qu'il eût quelque penchant à retourner en arrière, mais pour voir quel danger il avait couru pendant les ténèbres. C'est alors qu'il vit distinctement le fossé d'un côté et le marais de l'autre. Il aperçut en même temps combien était étroit le sentier par lequel il avait été obligé de marcher. Et quoique les lutins, les dragons et les sauterelles de l'abîme fussent assez loin, ne s'étant point approchés dès que le jour eut paru, il les aperçut assez distinctement, selon qu'il est écrit. Job 12, 22. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Chapitre 14. Le fidèle. Le chrétien fut sensiblement touché de la délivrance qu'il avait obtenue de tous les dangers auxquels il avait été exposé dans cette triste voie, qu'il vit alors encore plus clairement le soleil étant levé. C'était pour lui un très grand avantage, car il faut savoir que, quoique la première partie de la vallée eût été très périlleuse, celle qui restait à passer l'était encore davantage, parce que, depuis l'endroit où il se trouvait alors jusqu'au bout de la vallée, le chemin était si rempli de pièces d'artillerie, de filets, de creux et de fossés, que s'il avait fait aussi obscur qu'auparavant, il aurait perdu 1000 vies, s'il les avait eues. Mais comme je l'ai dit, le soleil était levé sur lui. C'est pourquoi, il dit, son flambeau brille sur ma tête, et avec sa lumière je marche à travers les ténèbres. À la faveur de cette lumière, il arriva au bout de la vallée, et vint dans un endroit, où il y avait quantité de sang, d'os et de cendres placés pêle-mêle, comme aussi plusieurs cadavres de pèlerins, qui avaient autrefois marché dans cette voie. Et comme j'étais en peine de ce que cela pouvait signifier, je remarquai un peu devant lui une caverne, où avaient habité autrefois de géants qui, par leur puissance tyrannique, avaient mis à mort ces malheureux hommes. Le chrétien passe à travers tous ces objets, sans beaucoup de danger, ce qui m'étonna d'abord. Mais ensuite j'appris qu'un de ces géants était mort il y a déjà plusieurs années, et que, quoique l'autre fût encore en vie, il était si perclus et si affaibli par la vieillesse qu'il n'avait plus la force de faire beaucoup de mal, mais seulement de se tenir à l'entrée de sa caverne, d'où il ne témoignait plus guère sa rage contre les voyageurs que par des gestes horribles, se rongeant les ongles, de dépit, sans plus pouvoir exercer ce brigandage précédent. Le chrétien passa donc son chemin, ne sachant néanmoins que penser de ce vieillard, qu'il voyait assis dans cette caverne, surtout lorsqu'il l'entendit crier « Va, va, je ne te traiterai pas plus doucement que les autres, et j'en ferai brûler encore plus d'un. » Mais le chrétien, sans dire mot, continua sa route en toute sûreté, et avec un visage content, il se mit à chanter ce qui suit. Que de surprenantes merveilles ta sagesse infinie a fait voir à mes yeux. Mon Dieu, que ne puis-je en tous lieux célébrer hautement tes bontés sans pareil. Mon âme était environnée de pièges et d'écueils, de ténèbres, d'horreurs, de la mort et de ses frayeurs. Mais ta puissante main, Seigneur, l'a délivrée. À travers d'affreux précipices,
Malgré mes ennemis, l'enfer et ses suppôts, tu m'as conduit vers ton repos et tu veux me combler d'immortelles délices. C'est là que, rempli d'allégresse, sauvé par ton secours, comblé de tes bienfaits, je veux célébrer à jamais de tes faits glorieux la profonde sagesse. Ainsi il arriva à une hauteur qui était élevée exprès, afin que les voyageurs qui passent par là puissent voir devant eux où ils doivent marcher. Il y monta légèrement et, regardant de tous côtés, il découvrit devant lui le fidèle qui tenait le même chemin. « Écoutez, écoutez, lui cria-t-il, attendez-moi. Je veux aller avec vous. » Le fidèle regarda autour de lui, ne sachant qui le chrétien appelait. Mais celui-ci continua à lui crier qu'il voulut bien l'attendre. « Je crains le vengeur du sang, lui répondit l'autre, ma vie dépend de là. » Le chrétien fut un peu blessé de cette réponse. Cependant, il rassembla toutes ses forces, et non seulement il atteignit le fidèle, mais il le devança de sorte que le dernier fut le premier, et que le chrétien commença à rire d'un rire moqueur de ce qu'il avait ainsi devancé son frère. Mais, parce qu'il ne prenait pas garde à ses pieds, il broncha lourdement et tomba par terre, sans pouvoir se relever jusqu'à ce que le fidèle vînt à son secours. Après cela, ils continuèrent ensemble leur chemin de bonne amitié, et j'entendis qu'ils s'entretenaient agréablement sur ce qui leur était arrivé dans leur voyage. Le chrétien commença de cette manière. Mon très honoré et bien-aimé frère, j'ai beaucoup de joie de vous avoir atteint et de ce que, par la grâce de Dieu, nous sommes en état de faire ensemble un voyage aussi beau que celui-ci. Le fidèle, je croyais, mon cher ami, que j'aurais le bonheur de votre compagnie depuis mon départ de votre ville, mais vous aviez déjà beaucoup d'avance sur moi et j'ai été obligé de faire tout seul ce long chemin. Le chrétien, combien de temps avez-vous encore demeuré dans notre ville depuis mon départ ? Le fidèle, aussi longtemps que j'ose y rester, car d'abord, après votre départ, il courut un bruit que notre ville allait être sous peu réduite en cendres, par le feu et le soufre du ciel. Le chrétien, ses discours furent-ils répandus parmi nos voisins ? Le fidèle, oui, certainement. On entendait parler d'autre chose pendant quelque temps. Le chrétien, est-il vrai ? Mais ne s'est-il trouvé personne qui ait voulu faire quelque effort pour éviter ce danger ? Le fidèle, à la vérité, on en parlait beaucoup, comme je vous l'ai dit, mais je ne crois pas qu'ils en fussent fortement persuadés, car, dans leurs entretiens les plus sérieux, ils riaient souvent de vous et de votre voyage, désespérés c'est ainsi qu'ils nommaient votre pèlerinage. Mais, quant à moi, j'ai bien cru et je crois encore toujours que notre ville doit prendre fin par le feu, et le soufre, c'est pourquoi je m'en suis retiré. Le chrétien, n'avez-vous pas ouï parler de notre voisin facile ? Le fidèle, oui, chrétien, j'appris qu'il vous avait accompagné jusqu'au bourbier du découragement où quelques-uns disaient qu'il était tombé, quoiqu'il ne voulût pas l'avouer. Toutefois, je n'en ai point douté, puisqu'il était encore couvert de boue. Le chrétien, et que disaient ses voisins ? Le fidèle, il était généralement méprisé de tous, quelques-uns se moquaient de lui et lui riaient au nez, d'autres faisaient difficulté de lui donner à travailler, lui-même, il est maintenant 7 fois pire qu'il n'était avant de sortir de la ville. Matthieu 12, 43-45, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti » et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. 2 Pierre 2, 20-22 En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du Saint Commandement qui leur avait été donné.
Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie l'avait sévautré dans le bourbier. Le chrétien, mais comme il n'avait que de la haine et du mépris pour ceux qui y entreprenaient ce voyage, il semble que facile, abandonnant cette entreprise, pour rentrer en commerce avec eux, en devrait être bien reçu plutôt que maltraité. Le fidèle, oh ! Disait-il, c'est une girouette, il faudrait pendre ces gens qui sont si légers et si infidèles dans leur conduite. Je crois que Dieu avait suscité ses ennemis pour le punir par un juste jugement de ce qu'il avait ainsi abandonné ses voies. Le chrétien, n'avez-vous jamais eu d'entretien avec lui avant votre départ? Le fidèle, je l'ai rencontré une fois dans la rue, mais il passa de l'autre côté sans me dire mot, comme un homme qui a honte de ses actions et ainsi je ne puis lui parler. Le chrétien, j'avais d'abord eu bonne opinion de cet homme, mais il est à craindre maintenant qu'il ne soit enveloppé dans la destruction de la ville, car il lui est arrivé ce qu'on dit par un proverbe très véritable. 2 Pierre 2, 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait sévautré dans le bourbier. Le fidèle, c'est aussi ce que je crains, mais qu'y faire quand on le veut ainsi? Le chrétien, c'est pourquoi, mon cher fidèle, laissons-le et parlons des choses qui nous touchent de plus près. Apprenez-moi, je vous prie, tout ce qui vous est arrivé sur votre route, car je ne doute point qu'il ne vous soit arrivé de grandes choses, ou ce serait fort extraordinaire. Chapitre 15. Son histoire, la volupté, le premier Adam, Moïse. Le fidèle, j'ai passé sans accident le bourbier du découragement où, comme je crois m'en apercevoir, vous êtes tombé. Je suis arrivé fort heureusement et sans aucun danger à la porte étroite. Je rencontrais seulement une personne qui se nommait la volupté et qui, selon les apparences, aurait pu me faire bien du mal. Le chrétien, quel bonheur que vous ayez échappé à ses filets. Joseph en fut aussi un jour fortement attaqué, mais il lui échappa comme vous. Genèse 39, 6 tiré 12, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « voici ». Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand, mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusait de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Que vous disait-elle, je vous prie? Le fidèle, vous pouvez bien vous l'imaginer, var vous n'ignorez pas combien elle est flatteuse et engageante. Elle me pressa fort de marcher à ses côtés, me promettant toutes sortes de plaisirs. Le chrétien, oui, mais elle ne vous promettait sûrement pas le contentement d'une bonne conscience. Le fidèle, vous jugez bien que c'était toutes sortes de plaisirs charnels et vicieux. Le chrétien, béni soit Dieu que vous en soyez sorti. Celui que l'Éternel rejette y tombera. Le fidèle, cela est vrai, mais je n'ose me flatter d'en être entièrement délivré. Le chrétien, pourquoi non? J'ose m'assurer que vous n'avez pas accompli ces désirs. Le fidèle, je m'en suis bien gardé de peur de me souiller, car je me suis souvenu d'un ancien écrit que j'avais lu autrefois et qui dit son allure descend au sépulcre. Proverbe 5, 5, ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. C'est pourquoi je fis un accord avec mes yeux, de peur d'être enchaîné par la magie de ses regards attrayants. Quand elle me vit dans ces dispositions, elle se moquait de moi, et je passais mon chemin. Le chrétien, vous n'avez point eu d'autres attaques sur votre route?
le fidèle, lorsque j'arrivais au coteau des difficultés, je rencontrais un vieillard décrépit qui me demanda qui j'étais et où j'allais. Je répondis à ses questions. Alors il me dit « Écoutez, vous me paraissez un bon garçon. Si vous voulez vous arranger avec moi et rester dans ma compagnie, je vous donnerai un bon salaire. » Quand je lui demandais son nom, il me répondit qu'il se nommait le premier Adam et qu'il demeurait dans la ville de Séduction. Éphésiens 4, 22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Je lui demandai quel était son métier et quel salaire il voulait me donner. Il me répondit que son métier était fort agréable et que j'aurais son héritage pour salaire. Romains 6, 23 car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Je lui demandai ensuite s'il avait une nombreuse famille. Il me dit alors que tous ceux de sa maison étaient bien à leur aise, que chacun pouvait y goûter toutes sortes de divertissements mondains, et que ses serviteurs étaient ses propres descendants, qu'il avait surtout trois filles distinguées, la convoitise de la chair, le convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, 1 Jean 2, 6, et que, si je voulais, il m'unirait à l'une d'entre elles. Je lui demandai aussi pour combien de temps il voulait m'avoir à son service. « Toute ta vie, me répondit-il. » Le chrétien, et comment vous tirâtes-vous en fin d'affaire avec lui? Le fidèle, d'abord j'avais beaucoup de penchant à le suivre, et je fus sur le point de me laisser séduire par ses fausses douceurs. Mais dans le temps que je m'entretenais avec lui, je jetai les yeux sur son front, et j'y vis écrit ces mots, « Dépouillez le vieil homme avec ses convoitises. » Éphésiens 4, 22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Dès ce moment, je me sentis fort ému et je ne doutais plus, malgré ses paroles attrayantes et ses flatteries, que son dessein ne fût de me vendre comme esclave. C'est pourquoi je lui dis qu'il devait se taire et que je ne voulais pas seulement approcher de la porte de sa maison.